Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. À partir du verset 20. Ils les amenèrent aux prêteurs et dirent, ces hommes troublent notre ville. Donc ils amenèrent qui? Paul et Silas. Verset 21. Ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de pratiquer, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, afin qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, il les prit avec lui. Ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Ça, c'est un épisode très fort de la vie de Paul où ils sont enfermés dans la prison intérieure pour qu'ils ne s'échappent pas. Donc, ils sont vraiment serrés. On leur a même mis des ceps, des gros morceaux de bois aux pieds pour les empêcher de sortir. Mais il nous est dit que dans cette souffrance-là, dans cette difficulté, Paul et Silas ont commencé à louer Dieu. Et il y a eu un tremblement de terre. Les portes de la prison se sont ouvertes. Les chaînes ont été brisées et les prisonniers étaient libres. Nous voulons parler du fait que Dieu recherche la vraie adoration. Vous savez, dans Jean 4, quand la femme samaritaine parlait à Dieu, à Jésus, Jésus lui a dit, Dieu cherche de vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Qui vont l'adorer non seulement dans la vérité, quand il dit en esprit, c'est du fond du cœur, dans une relation en profondeur. Et la vérité suppose aussi la profondeur. Et le Seigneur va chercher à sortir la véritable adoration. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Et parfois, nous allons le dire parce qu'on nous a dit de le dire ou on est influencé par des réussites, par des bénédictions que Dieu nous a données. Dieu voudrait vraiment qu'on l'adore parce qu'il est ce qu'il est. C'est pourquoi il va permettre des temps difficiles afin que dans ces temps difficiles, on l'adore, on le loue. Prouvant ainsi que lui, il est au-dessus de ces temps difficiles, au-dessus de ces circonstances, au-dessus des apparences. Il est Dieu et il ne dépend pas de la réalité humaine. Il existait avant les humains. Il est Dieu d'éternité en éternité. nous les chrétiens, nous devons apprendre à louer et adorer dans les temps difficiles. Parce que c'est ainsi que nous manifestons la vraie nature, la vraie connaissance de Dieu dans nos cœurs. Vous savez, soutenir une équipe qui gagne, c'est très facile. On a vu comment dans les stades de football, les supporters ont changé de face. Quand l'équipe menait, ils ont soutenu l'équipe, ils ont applaudi. Dès qu'ils étaient menés, le vent a tourné, les mêmes supporters ont commencé à siffler l'équipe. C'est simple de soutenir une équipe qui gagne. C'est simple de soutenir Dieu, de supporter Dieu, de glorifier Dieu quand tout va bien, quand on semble avoir des bénédictions. Mais est-ce que c'est ça la vraie connaissance de Dieu? Ce n'est pas la vraie connaissance de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de l'intelligence et des circonstances. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Dieu veut qu'on l'adore à tout moment, même dans les temps difficiles, parce que lui n'est pas dans les temps difficiles. Lui, il est au ciel, il est élevé, il ne connaît pas de sécheresse. Il est tout puissant. Alors, beaucoup vont se comporter comme les supporters de match, supporters d'équipes de football ou autres. Ils vont soutenir les équipes que quand elles gagnent. Mais Dieu veut qu'on le soutienne, qu'on le supporte, qu'on le glorifie, quel que soit le moment, parce que Dieu est éternel, il ne change pas. Si on l'a supporté hier, parce qu'on semblait gagner, on doit le supporter quand on semble perdre, parce que lui ne perd pas. Glorifier et adorer Dieu en tenant compte ou bien en étant influencé par nos états à nous, ça voudrait dire que Dieu est réduit à nous. Or, Dieu est au-dessus de nous. C'est pourquoi Paul et Silas, malgré la prison, ils ont loué Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Vous savez, il y a des circonstances qui nous atteignent, qui s'abattent sur nous. Et on sait comment, à peu près, les choses vont changer pour s'améliorer. Par exemple, on peut savoir que le 5 ou le 3, le salaire passera. Ah ben, telle difficulté m'est arrivée. Ben, le 3 décembre ou le 3 novembre, la chose sera réglée. Mais bien aimé, il y a des circonstances qui s'abattent sur nous. On ne sait même pas comment la solution viendra et d'où elle viendra. Notre intelligence est bloquée. On ne sait même pas. Même quand on imagine que Dieu va agir, mais on ne voit pas comment Dieu va agir. C'est là que nous sommes appelés à puiser au fond de nous la foi, la connaissance qui est vraiment au fond pour crier non, Dieu va résoudre quand même. Dieu va faire quand même. Comme les amis de Daniel, Nebuchadnezzar leur a dit, vous ne voulez pas vous prosterner devant moi, devant ma statue. Eh bien, vous allez être jetés dans le feu. Ces gens-là ne savaient pas comment Dieu allait faire. Mais ils savaient seulement que Dieu allait faire. Tellement ils ne savaient pas, hein, bien-aimés, ils ont même dit, au cas où Dieu ne fait pas, donc au cas où on brûle quand même, on meurt quand même, nous refusons quand même d'adorer ton faux Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est notre Dieu. C'est pour dire, bien-aimés, que nous ne serons pas toujours au top. Il y a des circonstances et des situations qui nous dépasseront. On ne sait pas de quelle manière ça sera dénoué. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu est plus fort que cette situation-là. C'est pourquoi Dieu ne va pas nous excuser de ne pas l'adorer dans ces circonstances-là. Dieu ne va pas dire, tiens, c'est normal, ils étaient devant une situation qui les a dépassés. C'est normal qu'ils n'aient pas pu me louer ni m'adorer. C'est faux. Dieu, c'est en ce moment-là qu'il demandera qu'on exprime ce qui est au fond de nous que les circonstances ne peuvent atteindre. que les réalités humaines ne peuvent atteindre. Vous savez, la foi en Dieu, la transformation, quand on dit qu'on est devenu une nouvelle créature, c'est un trésor qui est en nous que le diable ne peut pas atteindre. Le Seigneur dit dans Jean 10, « Mes brebis sont dans ma main et l'ennemi ne peut rien contre elles. » Nous avons des trésors. La connaissance de Dieu qui est en nous, elle est profonde si on est vraiment converti. Mais si nous n'expérimentons pas cette connaissance, nous finissons par mener une vie de chrétien médiocre, qui n'est pas à la hauteur de ce que Dieu attend de nous et à la hauteur de ce que nous avons comme puissance et solution. Alors le Seigneur permettra des temps difficiles afin que nous puissions à cette source inépuisable qui est en nous, la connaissance de Dieu. On se souvient même, vous avez des gens, que j'ai l'habitude de dire que David se comportait mieux que beaucoup de chrétiens aujourd'hui. David disait, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Donc il savait que dans des situations bloquées, sans horizon visible, il pouvait quand même crier, loué soit l'Éternel et il sera délivré. Aujourd'hui, c'est notre enseignement. Nous devons apprendre à louer et adorer dans les temps difficiles. Parce que c'est ça qui sort la vraie connaissance. C'est ça qui nous amène dans la vraie intimité avec Dieu. Job avait dit, j'avais entendu parler de Dieu, maintenant je le vois. Dans la vie d'un chrétien, on va toujours de gloire en gloire. Donc il y a un certain moment, Dieu va vouloir nous changer, faire changer d'étape. Donc il va permettre une situation qui nous rend impuissants, incapables, afin qu'on crie « Loué soit l'Éternel ». Ainsi, la vraie foi sort. Et cette foi produit maintenant de grandes choses. Vous savez, Abraham n'avait pas jamais expérimenté une résurrection de son temps. On ne parle pas de résurrection du temps d'Abraham. Même pas en promesse, on n'en parle pas. Mais lorsqu'on a demandé à Abraham de sacrifier son fils, et que les gens, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, et que son fils lui a demandé, « Mais père, où est l'animal ?» Abraham a dit à son fils, « Dieu pourvoira à l'animal. » Donc, il croyait qu'il y aurait une solution. Il s'est dit, « Oh, comment je peux tuer le seul fils que Dieu m'a donné ?» En plus, c'est lui qui m'a donné, et lui-même me demande encore de le tuer. Non. Je ne comprends pas cette situation. Bien-aimé, mettez-vous à la place d'Abraham. Il a dû ne pas comprendre. Il pouvait aussi taxer Dieu d'un homme, de quelqu'un qui se contredit, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. D'un côté, il promet que c'est ce fils-là qui va engendrer ta postérité. Et de l'autre côté, il demande à ce qu'on le tue. Bien-aimé, imaginez le cœur d'Abraham. Mettons-nous à sa place. On dit, mais finalement, ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il veut? Il dit que c'est lui le fils de la promesse. Et là, après, mais Abraham n'a pas fait ce raisonnement-là. Il s'est dit, c'est une situation qui me dépasse. Ça me dépasse. Attendons-nous à des situations qui nous dépassent, afin que nous crions comme David, loué soit l'Éternel. Afin que nous disions, l'Éternel pourvoira. Attendons-nous à des situations qui nous dépassent afin que la vraie intimité avec Dieu jaillisse. Et c'est cette intimité avec Dieu qui va nous amener à l'autre étape, à la prochaine étape. Et là, la prison s'est ébranlée. Paul est entré dans une autre étape. Il a connu le Dieu vraiment qui sauve. Comment ce monsieur, comme simple intervention, il dit, mais comment, que faire pour être sauvé? La bien-aimée. Que faire pour être sauvé? Est-ce que quelqu'un lui a prêché? Non. Mais il s'est dit là, il y a une question de Dieu dans cet endroit. Premier point donc. Apprenons à adorer, à louer dans les temps difficiles afin que jaillisse la vraie intimité, la vraie foi en Dieu, la vraie connaissance de Dieu. Deuxième point. Apprenons à adorer, à louer, à vivre dans la joie, dans les temps difficiles, afin que les gens qui nous entourent réalisent l'existence de Dieu. les gens peuvent nous malmener, mais parce qu'ils ne savent pas. Jésus a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous, ce que nous connaissons, nous, ce que nous expérimentons, les autres ne voient pas cela, n'expérimentent pas encore cela. Et donc, quand ils nous voient louer Dieu, quand ils nous voient se lever le matin, nous lever le matin pour aller prier, ils ne comprennent pas toujours. Ils disent, mais oui, mais qu'est-ce qu'on leur donne là-bas? Rien du tout. D'ailleurs, ils doivent supposer qu'on nous pille, on nous prend ce qui est à nous ici. Alors, comment expérimenteront-ils ce que nous, nous vivons? C'est lorsque ils arriveront à leur limite et que nous, on dépassera. C'est-à-dire que Dieu permettra des situations qui pour ces gens-là, lesquelles pour ces gens-là sont des situations à devenir fous, à amener à devenir fous. Mais quand ils vont nous voir dans la joie, dans ces situations-là, quand ils vont voir la solution de Dieu dans ces situations-là, ils vont comprendre réellement que Dieu existe. Bien-aimés, lisez la Bible, c'est rempli que de cela. C'est rempli que de cela. Quand ils ont vu dans le feu les trois amis de Daniel avec un quatrième homme, on ne savait pas d'où ils venaient, et qu'ils sont sortis du feu sans avoir l'odeur de la fumée, c'est là que le roi Nebuchadnezzar a reconnu que Dieu existait. Et il a dit même, lui-même il a donné la raison pour laquelle il a reconnu. Ce n'est pas le miracle. Il a donné la raison. Il a dit que les Shadrach, Meshach et Abednego ont préféré n'adorer que leur Dieu malgré le fait qu'on les menaçait de les brûler dans le feu. Donc, il s'est dit, si ces gens-là arrivent à préférer être brûlés dans le feu ainsi, mais adorer un Dieu qu'on ne voit pas, c'est qu'eux, ils le voient, ce Dieu-là. Mais puisque eux, ils le voient, et que ce Dieu-là peut agir ainsi, réellement, moi aussi, je peux le voir. Il existe. Je vois ce Dieu à travers eux. C'est ce que produit une louange persévérante, une adoration persévérante. Les gens vont se moquer de toi au début, vont te donner des surnoms au début, vont lancer des colibés. Mais à un certain moment, ils diront, tiens, ton Dieu existe. Parce qu'on a vu ce qu'il a fait chez toi. Mais bien-aimés, imaginez maintenant qu'ils ne sachent pas que vous êtes un enfant de Dieu parce que vous ne louez pas Dieu, vous n'adorez pas Dieu. Vous ne le glorifiez pas et vous vous cachez presque en tant qu'enfant de Dieu. Imaginez que Dieu fasse des miracles. Est-ce qu'ils sauront que c'est Dieu qui a fait? Non. Ils diront, tiens, c'est le hasard, c'est la chance. C'est pourquoi nous devons faire l'apologie, la louange de Dieu pendant qu'on souffre, afin que les gens se moquent. Parce que plus ils se moquent de nous, plus ils gardent à l'esprit que nous sommes en train de faire la louange de Dieu. Et le jour où Dieu fera la différence, ils se souviendront de notre détermination à servir Dieu. Ils diront, donc c'est vrai qu'il existe, comme Nebuchadnezzar. Et les gens vont se convertir. Cet homme est venu, mais comment puis-je être sauvé? Comment puis-je être sauvé? Il a compris que Dieu était avec Paul et Silas. Pour que les gens comprennent que Dieu est avec nous, nous devons persévérer dans la louange, dans l'adoration, dans les temps difficiles. Et je dis bien les temps difficiles, les situations compliquées, ce sont des situations parfois, on ne voit même pas comment ça peut se résoudre. Mais heureusement, nous avons un verset. Vous savez, il y a un verset pour tout problème. Éphésiens 3:20. Nous allons lire ça. Éphésiens 3:20. Il est écrit ceci. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons. Au-delà de tout ce que nous demandons, dans votre version, certaines versions c'est écrit, ou imaginons. C'est-à-dire que Dieu dépasse même notre imagination. Or, vous savez combien notre imagination est fertile, hein? Mais cependant, Dieu peut faire des choses qu'on n'a même pas pu imaginer. C'est pourquoi, quand on est dans des situations inextricables, louons Dieu comme David. Ne cherchons pas à imaginer d'où viendra et comment viendra la solution. On sait seulement que Dieu est tout-puissant, il donnera la solution. Alors, louons Dieu, adorons-le à son niveau, à lui. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous avons 3 jours d'adoration. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les pièges que l'ennemi va essayer de tendre contre l'un ou l'autre d'entre nous, venons avec un cœur rempli de reconnaissance et d'allégresse. Ne nous laissons pas avoir par la logique humaine. Dieu agit au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, au-delà même de ce que nous demandons. Venons avec la logique des amis de Daniel. Notre Dieu est plus grand, il nous délivrera. Venons avec la logique d'Abraham. Il croyait que son fils ressusciterait, même s'il mourait. Venons avec la logique selon laquelle Dieu est tout puissant, alors il doit être adoré à son niveau. Défendons l'honneur de notre Seigneur. Nous n'avons pas bien aimé à nous concentrer, à chercher une puissance quelconque. Non, nous devons reconnaître. Vous savez, nous sommes des humains. Quand les situations sont difficiles, il y a un temps d'abattement, il y a un temps de tristesse. Mais dans ce temps d'abattement et de tristesse, soyons silencieux. Soyons silencieux et dans la pensée et dans la bouche. Soyons silencieux. Ne polémiquons pas avec Dieu. Pendant ce temps-là, inclinons-nous. Disons, Seigneur, je m'accroche à toi. C'est tout. Je m'accroche à toi. Ne créons pas de polémiques inutiles. Accrochons-nous au Seigneur. La tempête finit toujours par passer. Vous savez, j'ai vu les histoires de bombes atomiques au Japon. Si vous regardez ce que le Japon était devenu, bien-aimé. Aujourd'hui, on parle des pays sous-développés, des pays où il y a la souffrance. Mais le Japon, c'est ce que c'était devenu. L'Italie, c'est ce que c'était devenu après la Deuxième Guerre mondiale. On ne pouvait pas regarder ces pays-là. L'Allemagne, aujourd'hui, le Japon est la deuxième puissance économique du monde. Si des gens sans Dieu peuvent se rétablir rien qu'en étant patient dans le temps, à combien plus forte raison nous qui avons Dieu? Nous devions avoir honte, bien-aimés. Nous devons être patients afin que Dieu nous rétablisse. On ne demande pas à ce qu'on se concentre pour trouver soi-même la solution. On dit, Seigneur, le Seigneur est tout puissant. J'attends toutes sortes de circonstances, de mauvaises nouvelles qu'on va entendre. Ayons recours à Dieu et louons l'Éternel. Il nous délivrera. Louons l'Éternel parce qu'il est digne d'être loué, parce qu'il est tout-puissant, il est merveilleux, il est bon. Il a donné son Fils à la croix pour nous sauver. Que son nom soit béni. Prions le Seigneur. Éternel, nous venons te remercier pour ton enseignement qui nous rappelle que tu tiens le monde entier dans ta main. Rien n'échappe à ton contrôle. Les molécules, les atomes sont sous ton contrôle. Et nous voulons, Seigneur, accepter avec joie les difficultés, de sorte à te louer. Ainsi, nous affirmons clairement que tu es au-dessus des difficultés. Il est écrit, Seigneur, que le nom de Jésus a été placé au-dessus de tout nom. Or, si certaines situations étouffent l'adoration ou la louange, ça voudrait dire que c'est le nom de ces situations-là sont élevés plus que Jésus. Nous refusons cela. Nous voulons que Jésus soit élevé dans nos vies à tout moment. Et que, Seigneur, dans les moments difficiles, dans les moments d'abattement, que nous puissions, Seigneur, rester silencieux il est écrit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Que nous ne puissions pas polémiquer, parfois nous pouvons commettre des péchés en parlant trop, en pensée ou par la bouche, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être confiants. Que ceux qui se confient en toi, jamais ne chancellent. Ils sont comme la montagne de Sion. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous voulons que pendant ces 3 jours d'adoration, Seigneur, tu nous fasses changer d'étape, que nous soyons des vrais annonceurs de ta parole désormais. Des gens à travers notre vie, à travers notre adoration, notre louange de tous les jours. Parce que l'adoration, la louange, ce n'est pas seulement chanter, c'est le fait d'obéir, c'est le fait d'être un sacrifice vivant pour toi, à travers nos choix, à travers nos décisions, que les gens réalisent par notre persévérance que tu existes, quand ils vont voir ce que tu vas faire, la différence que tu vas faire. Que nous puissions, Seigneur, prendre au sérieux notre responsabilité d'instruments par lesquels tu veux sauver le reste de l'humanité, Seigneur. Que réellement il y ait une onction d'évangélisation qui vienne avec l'onction d'adoration, Seigneur, au nom de Jésus. Que ce ne soit pas seulement des moments de chant ou de louange, de danse, mais que ce soit une prise de conscience de ce que tu es et de ce que tu attends de nous, Seigneur, pour sauver le reste de l'humanité. Nous nous attendons à toi, Papa, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour les 5 jours, Seigneur, que nous avons passés avec toi dans le jeûne et la prière. Nous prions vraiment que ces 3 jours de fête que nous préparons en ton honneur soient un temps d'humilité, d'amour, un temps de pardon, un temps de réconciliation, un temps de reconsidération des valeurs, que tu sois la seule valeur la plus importante dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, prends mon âme.